nzamba
nzambira samirana
C'est un jour pas comme les autres. Ce 15 avril 2021 marque la reprise des programmes de la radio Inzamba à Gatekakaoui. Ces émissions avaient été interrompues le 24 mars dernier, une décision qui avait mis ses auditeurs dans l'émoi, se disant sevrés d'une source d'information qui leur était indispensable parce que indépendante et crédible. Chères auditrices, chers auditeurs, nous voici donc de retour, et cette fois pour de bon, avec tout le plaisir de vous retrouver. Bonjour, bonsoir et bienvenue. À la présentation, vous êtes avec Valérie Mucho. Voici les principaux titres de cette première édition. C'est naturellement la joie pour les journalistes de la radio Inzamba qui se remettent au travail. Vous suivrez l'interview d'Alexandre Nyongeko, le directeur de la radio. Mais cette joie, c'est aussi celle de ses auditeurs. Maître Armel Nyongere, défenseur des droits de l'homme et président de l'ONG ACAT Burundi, nous dira l'apport indispensable de la radio Inzamba en informant les Burundais et le monde entier sur ce qui se passe au Burundi. Un an d'arriéré de primes, c'est ce que réclament les agents du ministère de la Solidarité Nationale pour avoir collaboré au programme de centre de développement familial et communautaire financé par le projet Prodéfi. Voyager vers Rumonge et Nyanzalak, des localités du sud du pays, coûte très cher ces derniers temps. Les voyageurs sont contraints d'embarquer d'abord dans des véhicules de transport pour ensuite continuer la route sur des motos à partir de Kigwena, la route étant devenue impraticable. Voilà pour les titres.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
C'est un ouf de soulagement et une grande satisfaction après la réouverture de la radio Inzamba, cela après 22 jours d'interruption des émissions. Selon Alexandre Nyongeko, directeur de la radio Inzamba, malgré les obstacles parcourus, il est de leur devoir de servir le peuple burundais en l'informant, mais aussi en lui permettant de revendiquer son droit à la liberté d'expression et d'opinion. On l'écoute.
Comme nous l'avions annoncé le jour où nous avons pris la décision d'interrompre nos émissions suite à des raisons indépendantes de notre volonté, nous avions promis que dans un bref délai, nous allions analyser les voies et moyens pour pouvoir reprendre afin que le public puisse jouir de son droit à l'information, afin que la liberté d'expression puisse être garantie. Et laquelle liberté d'expression conduit aussi, bien évidemment, à la liberté de la presse. Nous sommes donc satisfaits que dans ce délai, nous y sommes arrivés. Nous sommes satisfaits que nous allons nous acquitter de cette dette envers le public pour pouvoir lui fournir des informations. Nous sommes satisfaits de reprendre ce combat pour la liberté de la presse, ce combat pour le droit du public à l'information, comme je le disais. Et cette résilience dont nous faisons preuve, effectivement, découle des problèmes que nous rencontrons au quotidien depuis 2015. Et je dirais que nous sommes aujourd'hui préparés pour faire face à n'importe quelle situation. Nous ferons tout pour que ce combat puisse continuer. Et par cette occasion, la radio Inzamba remercie beaucoup le public qui ne cesse de lui fournir des informations, remercie aussi les partenaires qui nous soutiennent, mais aussi et surtout nos confrères qui se donnent corps et âme pour que le public puisse jouir de son droit à l'information.
Parmi les auditeurs attentionnés de la radio Inzamba figurent les défenseurs des droits de l'homme. Ils se réjouissent bien sûr de la réouverture des émissions de la radio Inzamba. C'est le cas de Maître Armel Nyongere. Il indique que la suspension des émissions de la radio pendant ces quelques semaines a plongé les consommateurs de l'information crédible dans l'opacité totale sur ce qui se passe quotidiennement au Burundi. Écoutons Maître Armel Nyongere, il est le président de l'ONG ACAT Burundi, Action chrétienne pour l'abolition de la torture.
Et je voudrais féliciter la radio Inzamba pour la reprise des émissions après quelques semaines d'interruption. Et la population burundaise était dans le désespoir total pour manque d'informations crédibles sur la vie du pays et entre autres en ce qui concerne les violations des droits humains. Cette fermeture de la radio Inzamba a beaucoup profité aux auteurs des violations des droits humains, aux auteurs de détournement des fonds publics, etc. et la reprise des émissions de la radio Inzamba va nous aider de relayer nos rapports de documentation des violations des droits humains commises au Burundi et pour les porter à la connaissance du grand public. Donc, nous nous réjouissons de la reprise des émissions de la radio Inzamba pour donner l'information crédible à la population burundaise en général et au monde entier.
Pour rappel, la mesure de suspension des programmes survenue le 24 mars dernier concernait les radios Inzamba, la radio publique africaine, ainsi que la télévision Renaissance.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
De nouvelles brèves à présent, le corps sans vie d'un garçon âgé d'au moins une année a été extrait d'une latrine située sur la colline Ruvumu ce mercredi, selon une source administrative locale. C'est dans la province de Bubanza, à l'ouest du Burundi. Selon la même source, le corps de cet enfant, qui était déjà en putréfaction, a été découvert par un usager de cette latrine qui allait se soulager. Il a vite informé l'administration. Le corps de la victime n'a pas été identifié. Les occupants de la parcelle où se trouve cette latrine ont été interpellés pour des raisons d'enquête. Et puis, à l'est du pays, dans la province de Muyinga, le corps d'un nouveau-né a été déterré mardi dans la maison de sa propre mère, située sur la colline Zaga de la commune Buvumbi, c'est en commune Butihinda, selon une source administrative locale. Chantal Niyonguru, âgée de 24 ans, a mis au monde son bébé le dimanche 11 avril, avant de l'égorger. Elle l'a ensuite enterré dans sa maison, déclare la même source. La nouvelle a été connue mardi quand le voisinage commençait à suspecter Chantal d'avoir accouché, mais que le bébé restait invisible. C'est après son arrestation que l'on a découvert que le bébé avait été enterré dans cette maison. L'on ignore encore le mobile du crime. La présumée criminelle est en garde à vue au cachot du commissariat communal de Utihinda pour la confection d'un dossier judiciaire, indique-t-on. La population de la commune Bubanza se lamente contre la décision de l'administrateur communal qui interdit la mouture du maïs. Cette décision vient après celle du gouvernement qui avait interdit l'importation des grains et de la farine de maïs. La population locale demande à l'administration de ne pas appliquer cette décision à la consommation en petite quantité des grains de maïs et de la farine de cette denrée très appréciée au Burundi. Écoutons le témoignage d'un habitant de la commune Bubanza.
Depuis que l'on a fixé à 680 francs-boules le prix d'un kilogramme de maïs, ici à Bubanza, c'est le désordre total. Hier, l'administrateur communal voulait arrêter tous ceux qui vendaient ou achetaient les grains de maïs. Celui qui était attrapé était conduit directement au cachot de la commune. La vente du maïs doit s'effectuer au chef-lieu de la commune, selon l'administrateur, tout en précisant que la vente au niveau local reprendra dans 2 mois. Il avait également interdit la mouture du maïs. Que les grains de maïs qui se trouvaient dans les moulins soient les derniers. Désormais, ne faites plus moudre vos grains au moulin, a-t-il insisté. Et nous qui avons le maïs dans nos greniers, nous disons au revoir à la pâte de maïs. Où allons-nous les moudre? Qu'est-ce que nous allons faire? Et ceux qui avaient l'habitude d'acheter souvent le maïs aux boutiques, que vont-ils faire? À quand la fin des 2 mois qui se sont fixés? Nous, la population, nous sommes très fatigués. Nous ne comprenons pas toutes ces multiples décisions.
Nous avons essayé de joindre l'administrateur de la commune Bubanza, mais sans succès. Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président de la République et actuel président de la coalition de l'opposition Sefor Arusha, explique qu'il est difficile de comprendre les mesures prises et leur mise en application. Pour lui, cette mesure interdisant les habitants à vendre leur production de maïs est insensée, du moment qu'il y a des provinces qui n'en produisent pas. Il trouve que cette mesure va plutôt continuer à creuser le fossé entre la population et les autorités du pays. Suivez-le.
J'avais entendu une fois la ministre du Commerce s'exprimer à propos et j'ai rétorqué en disant que la production du maïs est une production qui n'est pas monotone dans notre pays parce que il y a des régions qui produisent du maïs, essentiellement les régions de Mugamba, et d'autres régions qui en réalité n'en produisent pas beaucoup. En tout cas, là où j'ai grandi, dans Muyinga, je vois Ngozi, Kikirundo, je vois Karuzi, je n'ai pas vu des plantations de maïs toutes seules. Non, on plante des maïs avec du haricot et en réalité ce maïs est utilisé uniquement quand ça fait saison. Et cette culture chez nous est utilisée juste comme amuse-gueule. Maintenant la question qui se pose, comment est-il possible que le gouvernement ait pris une telle décision de ne pas permettre aux populations de vendre leur production en matière de maïs, quitte à ce que ça puisse être canalisé par d'autres structures gouvernementales. Mais moi, je pose la question. Est-ce qu'il y a eu étude qui vient répondre à un souci? Quel est le souci que vient résoudre le gouvernement? Est-ce le souci de la population ou est-ce le souci des dirigeants? Et là, ça va constituer un fardeau du côté de la population. Je demanderai plutôt aux médias de tout faire pour investiguer auprès des populations et même auprès des responsables au niveau du sommet pour comprendre quelle est la préoccupation de terrain qu'on vient résoudre. Sinon, une telle décision, justement, va constituer un fardeau du côté de la population et ça va, encore une fois, créer un fossé entre la population et le pouvoir. Donc, ce qu'il faut plutôt éviter.
Les fonctionnaires du ministère de la Solidarité nationale qui ont presté au sein du programme Centre de développement familial et communautaire réclament des arriérés de plus d'une année de leur prime d'encouragement. Ce programme, considéré comme le premier appuyé par le projet Prodéfi, était implanté dans 6 provinces du Burundi. Raoul Ngengurutse nous en dit plus.
Ce projet du ministère de la Solidarité appuyé par la Prodéfi a débuté en 2012. Il avait fait enrôler les assistants sociaux du ministère de la Solidarité de 6 provinces, à savoir Bubanza, Chibitoke, Gitega, Karuzi, Muramvya et Ngozi. Les sources de la radio Inzamba Agathe Kakawe parmi les assistants des 6 provinces indiquent que depuis le début de ce projet, ils bénéficiaient d'une prime d'encouragement de 20 000 francs burundais par mois et pour chacun, avec d'autres facilités de travail. Tout était bon jusqu'après l'an 2019. Un de ses assistants sociaux témoigne. Le projet a débuté en 2012, mais depuis cette date, tout a été bien. Ce n'est que vers la fin du programme que l'on a constaté une certaine forme de dysfonctionnement du projet. L'allocation des véhicules pour les descentes, les frais de déplacement, nous faisons la location de taxi-moto. Nous avons promis que nous allons déclarer le remboursement. Les propriétaires de ces motos, des véhicules qui étaient loués par le projet, nous traitent maintenant d'escrocs. Nous demandons au ministère de tutelle d'exiger le décaissement de ces fonds comme c'était prévu dans la convention entre le premier et le deuxième projet Prodéfi. Ils nous avaient promis que nous allons déclarer le remboursement. Les propriétaires de ces motos, des véhicules qui étaient loués par le projet, nous traitent maintenant d'escrocs. Nous demandons au ministère de tutelle d'exiger le décaissement de ces fonds comme c'était prévu dans la convention entre le premier et le deuxième projet Prodéfi.
Comment se laver les mains pour éviter la propagation de la COVID-19? Il faut se laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Le savon doit rester sur nos mains au moins 3 minutes et rincer avec de l'eau propre. Bien frotter entre les doigts, dans les ongles et les manches pour éviter que les virus restent cachés dans ces endroits. Quand faut-il se laver les mains? À chaque fois que tu dois entrer dans des bâtiments où travaillent les autres comme des bureaux, des marchés, des écoles, les églises, les restaurants, les cabarets et j'en passe. Avant de manger, quand tu rentres chez toi, avant de porter un masque pour éviter de le contaminer avec les microbes qui pourraient être sur tes mains, ou à chaque fois que tu enlèves le masque, car lui aussi peut contaminer tes mains.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakawe,
en partenariat avec Internews, financé par l'Union européenne.
Le personnel de l'hôpital de Makamba dénonce l'inertie de la justice dans cette province du sud du pays face au vol des médicaments et du matériel de l'hôpital perpétré par certains des agents de cet hôpital. Cela après la libération de Leonidas Nijimbere, alias Gitenge, qui avait été surpris en possession de médicaments qu'il avait volés. Des médicaments dont la valeur est estimée à plus ou moins 2 millions de francs burundais. Des sources sur place parlent d'un réseau mafieux qui opère au sein même du personnel dans le détournement des médicaments avec la complaisance des autorités hospitalières. C'est un reportage signé Alice Akimana.
Léonidas Nijimbele est sorti de la prison de Makamba il y a presque un mois. Il avait été arrêté fin 2020 avec ses deux collègues de l'hôpital de Makamba. Selon nos sources sur place, Léonidas a révélé que ses médicaments ont été volés par un certain Akimana Emile, chargé de la conservation des médicaments du bloc opératoire de l'hôpital de Makamba. Celui-ci a ensuite été interpellé. Mais le directeur de l'hôpital, le docteur Elias Nzeimana, s'y étant opposé, il a été vite relâché. Le personnel de l'hôpital accuse le directeur de cet hôpital et le directeur administratif et financier Eric Ndayegamiye de protéger ceux qui détournent les biens de l'hôpital. Pour cause, Emile Akimana et Léonidas Nijimbele sont des responsables du parti CNDD-FDD à l'hôpital et ces deux autorités hospitalières sont aussi membres du même parti.
Son Nijimbele Léonidas est un imbonerakure très puissant ici à l'hôpital. Il a été pris en flagrant délit avec les médicaments de l'hôpital, mais le DAF a tout fait pour le couvrir. Nijimbele Léonidas avait donné les médicaments à un certain Rajabu qui a été arrêté et emprisonné par la police. Son complice dans son vol de médicaments était un certain Emile, responsable du stock des médicaments du bloc opératoire. Après, ils ont voulu le protéger en le mettant au cachot quelques jours. Après, il a été libéré et cette affaire a fait beaucoup de bruit et il a été de nouveau arrêté. Mais son complice, Akimana Emile, bien que ce soit lui qui était responsable du stock des médicaments, il n'a passé qu'une seule nuit au cachot. Le directeur est allé le prendre avec son véhicule car c'est lui le chef des Imbonerakure d'ici à l'hôpital.
Pour le moment, le personnel demande l'intervention du ministre de la Santé pour arrêter ces actes de vol. Le personnel dit n'avoir plus confiance aux responsables de l'hôpital de Makamba puisqu'ils sont complices dans cette affaire.
Nous demandons l'intervention du ministre de la Santé pour que ceux qui ont volé les médicaments répondent de leurs actes. Plusieurs personnes ont été injustement emprisonnées, ceux qui ont été victimes d'une simple suspicion qu'on puisse toujours en prison, mais ceux qui ont été pris en flagrant délit sont tous libres. C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait la justice pour tous, que même les Imbonerakure qui commettent les infractions soient punis par la loi sans qu'il y ait du deux poids deux mesures. Que le ministre vienne à Makamba pour s'enquérir de la situation paradoxale lui-même, où ceux qui sont pris en flagrant délit sont libres, alors que ceux qui ont été victimes d'une suspicion viennent de passer 3 ans en prison.
Ces deux autorités de l'hôpital de Makamba sont également accusées de s'aimer la haine entre le personnel de l'hôpital en distinguant ceux du parti CNDD-FDD et le reste. Un certain Lambert vient de passer près de 3 ans dans la prison pour simple soupçon qu'il aurait volé du matériel du bloc opératoire, mais aucune preuve n'a jusque-là été montrée.
Radio Inzamba, nous avons essayé de joindre les deux autorités de cet hôpital citées dans ce détournement des médicaments, mais sans succès. Dernière nouvelle de ce jeudi, les passagers qui empruntent la route nationale 3, le tronçon Nyanzalak-Rumonge, se lamentent du mauvais état de la route. Les voitures et autres petits véhicules inadaptés ne peuvent plus circuler sur cette route. Les voyageurs sont ainsi obligés de prendre des motos à partir de Kigwena dans la commune Rumonge, ce qui, selon eux, augmente sensiblement le coût du transport. Les usagers de cette route demandent qu'elle soit réhabilitée. Le point avec Diane Ngurunziza.
Les informations en provenance de la province Rumonge indiquent que la route Rumonge-Nyanzalak est devenue impraticable depuis un certain temps. Les usagers payent plus cher que prévu car ils sont obligés de prendre des motos à Kigwena. Ils disent qu'avant que la route ne s'abîme, le ticket Rumonge-Kigwena était de 1000 francs bout. Actuellement, c'est 2000 francs. Les passagers disent également qu'ils payaient 2000 francs le trajet Kigwena à Nyanzalak, mais qu'aujourd'hui ils paient 5000 francs. Ainsi, le coût total du ticket Rumonge-Nyanzalak est évalué à 7000 francs bout, alors qu'avant on ne payait que 3000 francs. Les voyageurs s'inquiètent ainsi de la situation, surtout ceux qui exercent leur fonction à Nyanzalak, alors qu'ils ont leur domicile à Rumonge. Ils demandent au gouvernement de fournir des efforts pour que la route soit réhabilitée, la dite route figurant sur la liste de celles qui allaient être réhabilitées depuis 2018, mais jusqu'à présent, rien n'est encore fait.
Merci Diane Murunziza, et c'est ici que se termine cette édition, une édition spéciale je vous le rappelle, puisqu'elle était la première pour la reprise des programmes de la radio Nzamba Agathe Kakaawe. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui a participé à la production de ce journal. À toutes, à tous, merci pour votre fidélité et à la prochaine.